Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Les Landes et du Ciel, émission proposée par l'Astroclub du Marsan pour vous faire découvrir notre univers. Je me présente Yves DeAngeli et pour m'accompagner aujourd'hui, Richard, membre de l'Astroclub du Marsan.
Bonjour.
Lors de nos dernières émissions, nous avons présenté les notions, les théories connaissant, qui parlent de la connaissance de notre univers. On a bien exploré un petit peu le domaine de connaissances basiques pour comprendre le fonctionnement de notre univers. Mais la recherche scientifique et technique pour améliorer notre compréhension de tout ce qui nous entoure est sans cesse en progression. Il y a des découvertes ou des avancées qui nous offrent vraiment de nouvelles perspectives et modifient cette vision de l'univers, mais ouvrent souvent autant de questionnements. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons choisi de faire le point des actualités qui peuplent un petit peu nos réseaux d'informations. On a fait le tri, il y a quelques informations qui ont retenu notre attention et qui faisaient écho aux émissions précédentes. Donc on va faire un petit tour d'horizon des scoops de l'espace.
Alors j'ai reçu une information intéressante et stressante qui était que l'astéroïde Apophis, risquait de tomber sur la Terre en 2029.
Peut-être. Apophis, en fait, ça porte le nom du dieu du mal et du chaos. Donc ça veut dire que lorsqu'il a été détecté en 2004, il a de suite inquiété les astronomes parce que sa trajectoire risquait peut-être de venir en collision avec la Terre. Donc pour l'instant, on avait des doutes, on savait qu'il allait nous frôler plusieurs fois. Là, il y a une nouvelle étude qui est sortie qui nous assure qu'en fait, il va nous éviter en 2029. Donc on a recalculé sa trajectoire et puis on a confirmé qu'il n'y avait pas de risque potentiel sur la Terre. Donc le Apophis, c'est quand même un astéroïde qui est dangereux, on va dire, globalement. On estime que l'astéroïde qui a mis fin au règne des dinosaures il y a 65 millions d'années, il devait mesurer entre 10 et 15 km de diamètre. Mais la NASA estime que tout ce qui dépasse les 140 mètres est potentiellement dangereux. Donc Apophis, lui, son diamètre est estimé à 335 mètres. Donc ça veut dire que si il nous touche, il y aura un dégât qui ne sera pas aussi important que celui des dinosaures, mais qui risque d'être quand même relativement important au niveau de la planète, au niveau du fonctionnement, climatologique et général de la planète. Alors il devrait passer en avril 2029, à moins de 40 000 km de la Terre. Alors c'est très proche, hein, quand on voit la distance entre la Terre et la Lune, c'est très proche, 40 000 km. Et la NASA, elle va étudier précisément tous les astéroïdes qui passent à moins de 7,5 millions de kilomètres. Ils sont de suite pistés, suivis, et leurs trajectographies sont calculées sans cesse pour être sûr qu'il n'y ait pas un élément qui puisse les perturber. Mais justement, c'est le risque qu'on a justement par rapport à cet astéroïde. 40 000 km, c'est pas beaucoup. Et on se dit que n'importe quel objet, n'importe quel impact qu'il pourrait subir pendant sa trajectoire pourrait le dévier. Et on en sait quelque chose puisque on a fait une expérience DART, la mission DART, qui était de dévier la trajectoire d'un astéroïde. Eh bien, on a réussi à le dévier. Donc on se dit, il est possible, il est probable que si Apophis croise un petit caillou qui le percute, eh bien, sa trajectoire qui était théoriquement sécurisée risque d'évoluer, de dévier. Donc, il y a une équipe canadienne qui s'est mise au boulot. Ils ont fait un petit peu le point sur 1,3 million d'astéroïdes qui sont dans notre environnement proche et qui pourraient se trouver en percussion avec Apophis. Et en fait, ils ont déduit qu'aucun ne risquait de le toucher. Donc globalement, on peut dire qu'il n'y a pas de risque.
C'était quoi la mission DART? On a des retours?
La mission DART, comme je viens de dire, c'était une mission. L'idée, c'était de voir la capacité qu'on avait, qu'on aurait, pour dévier un astéroïde qui serait dangereux pour la Terre. Donc on a pris une petite sonde et le but c'était d'aller percuter cet astéroïde. Donc c'était un astéroïde qui tournait, qui est en orbite autour d'un autre astéroïde. Donc c'était plus simple pour calculer la déviation de son mouvement. Et donc on a envoyé cette petite sonde qui est venue percuter cet astéroïde. C'était envoyé en 2021 et ça a percuté en septembre 2022. Donc déjà, c'est pas facile d'envoyer une sonde pour aller percuter un objet si petit, si loin, parce qu'on n'est pas idiot, on l'a pas fait proche de nous, hein, on l'a fait un petit peu plus loin quand même. Le choc a été direct, frontal, Bon, c'est pas un choc énorme, hein. C'est comme s'il y a une fourmi qui vient percuter l'équivalent de deux bus. Donc le bus, il s'en rend même pas compte, normalement. Et les retours qu'on a, c'est qu'effectivement, avant la collision, cet astéroïde qui s'appelait Dimorphos, il avait une rotation autour de son frère jumeau de 11h55. Et après la percussion de cette petite fourmi, eh bien, on a modifié la durée de à peu près 73 secondes. Donc ça voulait dire que cet impact-là avait quand même réussi à faire modifier la trajectoire. Donc c'était un succès globalement. Et en continuant à faire des mesures sur cet astéroïde, on s'est rendu compte que c'était pas que 73 secondes, c'est qu'au fur et à mesure, cet élément-là s'est amplifié. Et au lieu des 11h55, eh bien maintenant, il fait la rotation en 11h23. C'est-à-dire que la petite fourmi qui est venue percuter le bus, elle a quand même réussi à faire des gros dégâts. Et pas que des dégâts sur la partie, rotation, la partie fonctionnement de l'astéroïde. On s'est rendu compte qu'elle a aussi fragmenté l'astéroïde. C'est-à-dire que normalement, un astéroïde, il a une force de gravité qui fait qu'il y a une cohésion interne très importante et c'est un objet qui est théoriquement très dense et très lourd. Là, on s'est rendu compte que ça a fragmenté cet astéroïde. Donc si une petite fourmi a réussi à fragmenter un astéroïde, ça veut dire que finalement la densité qu'on pensait de ces astéroïdes n'est pas celle-là. Elle n'est pas aussi forte que ça. Et donc ça veut dire que finalement le risque, l'impact sur Terre aura peut-être un peu moins de puissance que si on avait effectivement un astéroïde qui était complètement dense. Donc les simulations ont montré que globalement, il a perdu cet impact-là à éjecter. L'astéroïde devait faire à peu près 5 millions de tonnes. Il a perdu 20 000 tonnes qui ont été éjectées, qui sont satellisées de poussière qui sont autour. Et donc on se retrouve avec un astéroïde qui finalement est un ensemble de petits cailloux qui volent ensemble plutôt qu'un objet vraiment massif. Donc ça nous rassure pour les impacts. Et donc on va continuer à faire ces recherches-là sur des astéroïdes. On a récupéré des retours d'échantillons sur Ryugu et Bemu. Bénu, on en avait parlé sur une des premières émissions. On a ramené en fait de la poussière de ces astéroïdes pour mieux comprendre leur composition. Donc dans tous les cas, on ira un peu plus loin sur la protection de notre planète en connaissant mieux en gros l'impact que pourra avoir un astéroïde qui pourrait nous toucher.
Alors nous avons parlé du renouveau de la conquête de la Lune. Où en est-on ?
Ça avance. Bon, pas forcément aussi vite que prévu. Ça c'est l'habitude, hein. Les projets, les programmes, ils prennent toujours un petit peu de retard. Il y a deux sondes qui sont posées sur la Lune, sur le pôle sud de la Lune. Enfin posées, ils ont touché la Lune. Donc la première, la japonaise, elle est arrivée peut-être un petit peu vite. Elle s'est retrouvée la tête dans le sable. Donc elle est un peu à l'envers. L'autre, c'était une sonde américaine faite par une entreprise privée qui était Intuitive Machine, qui était en collaboration avec la NASA. Ils ont envoyé leur sonde, ils ont réussi à la poser. C'était une sonde qui était très haute, hein. Elle devait faire à peu près 4 mètres de hauteur, très fine. Et quand elle a voulu se poser, elle arrivait un peu trop vite et pas tout à fait au bon endroit. On pourrait dire qu'elle s'est pris les pieds dans le tapis et en fait elle a basculé, donc elle est actuellement allongée sur le sol. Bon, ça fonctionne encore un petit peu puisque une partie des panneaux solaires est active, donc ils peuvent continuer à avoir des instruments qui fonctionnent. Le pôle sud est intéressant parce que c'est l'endroit où théoriquement on enverrait c'est là que se situeraient les futures bases lunaires parce qu'il y a de la présence d'eau dans cette zone-là, donc de glace, donc d'eau on pourrait réutiliser. C'est l'endroit où on devrait mettre théoriquement les futures missions humaines et on explore ça. C'est une partie intéressante de la Lune. Le problème, c'est que cette partie de la Lune, elle a aussi des nuits. C'est-à-dire que si on envoyait un élément sur la face visible de la Lune, on n'aurait pas des nuits, on aurait des périodes de nuit qui seraient uniquement quand on serait sur des nouvelles lunes. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas des limitations comme ça. La Lune, elle bouge un petit peu sur elle-même. C'est pas forcément l'endroit idéal pour habiter, mais c'est le seul endroit où on a trouvé potentiellement de la glace. Donc c'est pour ça qu'on a les missions qui sont envoyés là-bas. Donc on voit que c'est pas très très facile d'envoyer des sondes, hein. On pensait que c'était hyper simple, tout le monde réussit à envoyer une sonde, à la faire poser sur un astre, eh bien non, c'est toujours difficile. Et donc ça remet un petit peu en question ce qu'on pense aussi pour Mars, en se disant c'est facile d'envoyer des sondes sur Mars. Il y en a beaucoup qui sont écrasés, donc rien n'est simple.
Et la mission Artemis tient-elle ses promesses ?
Ben, pour l'instant, la première partie d'Artemis, ça marchait. C'est-à-dire qu'on a fait les premiers vols, on a validé le concept. Bon, donc c'est très très bien, ça fonctionne. La mission 2 qui était prévue, avec de l'emport d'astronautes, hein, donc des êtres humains qui seraient à l'intérieur de la mission, ben, ça a été repoussé. Au minimum un an de retard, hein, c'est dû à des problèmes d'organisation, c'est dû à des problèmes techniques avec avec les retours de la mission Artemis 1, et on s'est rendu compte qu'il y avait des éléments techniques qui n'étaient pas tout à fait au top, et qu'avant d'envoyer des hommes, il valait mieux être sûr à 100% que le vaisseau soit fiable. Donc c'était sur Orion et sur le bouclier thermique, ils se sont rendu compte que le bouclier thermique, en fait, il perdait trop de matière par rapport à ce qui était prévu. Donc ça veut dire que ça pouvait être dangereux. S'il perd trop de matière, il est moins efficace, donc ça pouvait être dangereux. Il y a aussi des problèmes électriques, des problèmes de gestion. Donc cette mission-là a pris un an de retard. Et après, la mission Artemis 3, ben, on est encore à la phase de développement des scaphandres, on est encore à la phase du lanceur, hein, du SLS, HLS, voilà, de SpaceX. Donc c'est vraiment compliqué pour l'instant. Il y a beaucoup de retard qui est pris. Ce qui était prévu au départ va prendre quand même pas mal de retard. Et donc après, Artemis 4 serait probablement lancé en 2028 avec Orion, un équipage, et Artemis 4. Donc ça devrait être les premiers qui vont aller installer le premier module de la future station spatiale en orbite autour de la Lune, et qui servira de point d'ancrage, on va dire de port d'arrivée ou de sortie de la Lune. Donc ça devrait être en 2028, et pour Artemis 5 qui serait la finalité, c'est-à-dire on se pose, pour l'instant il n'y a pas de date.
Alors j'ai lu que l'on avait découvert de l'eau dans des disques autour d'étoiles en train de naître. Qu'est-ce que cela nous apprend ?
Ben, ça nous surprend un petit peu. Bon, on va pas dire 100% surpris, mais dans l'idée, qu'il y ait de la molécule d'eau, qu'il y ait des composés comme ça, oui. Après, dans le disque, au moment de la formation des planètes, c'est un peu plus hasardeux, puisque ça aurait dû être repoussé un peu plus loin que dans la zone où sont les planètes. Mais c'est très très bien, parce que ça nous donne des réponses. Ça nous donne des réponses importantes concernant la quantité d'eau, parce que on pense que l'eau qui est sur la Terre, par exemple, ou sur d'autres, ou qui a pu avoir sur d'autres astres, elle était venue par les comètes. Que c'était les comètes qui sont donc les objets glacés qui sont au fin fond de notre système solaire, et que c'est ces comètes qui, en rentrant dans le système interne, auraient ramené toute cette eau. Et bien globalement, on peut dire que quand on faisait les calculs, on se rendait compte qu'il n'y avait pas assez de comètes pour faire toute cette eau. Donc il devait y avoir une autre source, un autre moyen, en fait, d'avoir ça. Et donc le fait de trouver de l'eau, c'est bien. Ça veut dire que la molécule d'eau était présente au moment où les planètes vont se former. Bon, c'est de l'eau qui va être gelée un petit peu, mais ça nous donne une information complémentaire sur... on avait aussi un doute sur la formation des planètes, sur les grains, c'est des petits grains, des petites poussières qui se collent les unes aux autres, et qui, elles se rassemblent, elles se recollent. Oui, mais au bout d'un certain temps, quand l'objet est suffisamment gros, quand il va croiser un autre objet, plutôt que de se coller, il a tendance à se repousser ou à se percuter. Donc il fallait trouver un ciment. Et cette idée d'avoir de l'eau qui est présente dans ces poussières, donc ça va couvrir, ça fait une petite pellicule de glace à la limite sur ces poussières, ça va faciliter la cohésion de ces petits grains pour devenir des grains un peu plus grands, jusqu'à devenir des planètes. Et ça permet de, on va dire globalement, réduire le temps d'estimation de création d'un objet comme la Terre, parce que les grains, ils vont pouvoir s'agglomérer encore beaucoup plus vite que prévu. Et ça, ça a été vu simplement avec un radiotélescope, puisque le radiotélescope, vous savez qu'on en avait parlé, on observe le ciel avec différentes longueurs d'onde. Il y a des éléments qui sont plus faciles à mettre en évidence dans les ondes millimétriques ou submillimétriques, donc la radio. Il y en a d'autres qui sont plus faciles à mettre dans d'autres rayonnements, le X, l'ultraviolet ou l'infrarouge. Et donc là, c'est ALMA qui est le plus grand, en fait, le plus grand radiotélescope, qui a permis de mettre en évidence la présence de cette eau. Et ça nous permet maintenant de se dire que finalement, ça va plus vite, c'est normal. De l'eau, il y en a, il y en aura peut-être suffisamment pour avoir des planètes océans, comme sur la Terre. Donc c'est intéressant d'avoir cette information-là, et c'est très nouveau de pouvoir vraiment quantifier. On avait des idées avant, et là, avec ALMA, il y a des relevés énormes, Il y a énormément d'analyses et la quantité d'eau qui est présente est vraiment, vraiment très, très importante. Donc, les océans de la Terre ou des autres peuvent être fournis avec ça. On a une partie d'eau qui peut être générée par l'hydrogène, l'oxygène qui va être capturé au moment de la création de la planète. Mais on a aussi cette eau résiduelle qui était présente là, cette eau déjà formée, donc cette glace qui était déjà formée, qui a un apport complémentaire pour la création, on va dire, de planètes océans.
Rain.
est vraiment un objet de recherche important actuellement. Pourquoi ?
Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait que pour que la vie émerge, on a besoin d'un solvant. Un solvant, ben, c'est pas forcément de l'eau, hein, mais ça, on va dire, le solvant, il va servir à quoi ? Ça va servir à dissoudre une grande quantité de différentes substances, hein, les molécules, les nutriments, les gaz, etc. Les éléments métaboliques, voilà. Donc, il nous faut un fluide, un solvant, pour pouvoir avoir cette interaction avec les différents éléments dans les organismes vivants. Il y a des réactions biochimiques naturelles aussi qui ont besoin d'eau, comme la photosynthèse, comme la respiration cellulaire. Et en plus, c'est un régulateur thermique, l'eau, donc ça permet d'avoir un amortissement, on va dire, des variations thermiques. Donc il faut absolument, dans notre conception, dans notre connaissance de la création de la vie ou du fonctionnement de la vie, il faut qu'il y ait un solvant. Mais ce n'est pas forcément de l'eau, hein. Ça peut être de l'ammoniac ou ça peut être du méthane, par exemple, comme sur Titan, où on va se retrouver avec des lacs de méthane. Bon, ben, c'est un solvant aussi, hein. Ça peut fonctionner aussi sur des éléments cellulaires. Bon, il ne faut pas fumer sur Titan, mais ça fonctionne. C'est-à-dire qu'une vie pourrait se développer dans une zone ammoniaquée, une zone avec du méthane. Alors, on a fait une autre découverte intéressante. On a découvert la petite lune Mimas, qui est située autour de Saturne. C'est une toute petite lune. On pensait qu'elle était morte, on pensait qu'elle avait rien du tout. Et en fait, les mesures, on a déterminé que, en fait, sous la croûte de Mimas, il y aurait un océan liquide. Un océan liquide très très important. Et en plus, il se serait formé relativement récemment. Alors Mimas, c'est, il faut imaginer, vous prenez l'étoile de la mort de Star Wars. Donc ça fait un petit corps gris tout aride, c'est une lune, voilà, il n'y a rien dessus, tout gris, avec un énorme impact à sa surface, comme l'étoile de la mort de Star Wars. Hein. Et s'il y avait un endroit où les scientifiques ne pensaient pas trouver de l'eau, c'était bien là, parce que c'était une petite lune morte autour de Saturne. Et donc une équipe a étudié Mimas, et puis parce qu'ils étudiaient un petit peu les lunes de Saturne, et ils se sont rendu compte qu'il y avait des mouvements bizarres, Mimas n'avait pas un fonctionnement normal autour de la planète, il y avait des petites oscillations qui se passaient. Et donc, quand il y a des oscillations, potentiellement, c'est peut-être qu'il y a un élément liquide quelque part. Et donc, ils ont commencé à faire des mesures, et ils ont trouvé qu'effectivement, il y avait de l'eau. Il y avait un océan sous la croûte de Mimas, et donc ça rejoint un petit peu Europe Ganymède autour de Jupiter, qui on a trouvé qu'il y avait de l'eau en dessous, et ça va rejoindre Encelade et Titan autour de Saturne, donc ça nous fait un élément encore en plus, une lune en plus autour d'une étoile, d'une planète géante, une lune en plus avec un océan. Donc c'est l'astre est petit, hein, il fait 400 km de diamètre, il est froid, il est inhabitable, il est c'est impossible, il y a des cratères partout. C'est une coque de glace en fait sale. Voilà, on a l'impression que c'est une coque de glace complètement sale avec beaucoup de poussière et on voit rien qui sort. Encelade, quand on regarde Encelade, on a ce qu'on appelle les griffes de tigre dessus, où en fait on a la banquise qui est au-dessus qui des fois se fracture et on a des geysers en fait d'eau qui sortent de ces fractures. Sur Titan, ça y est pas. Sur Titan, on n'a rien vu, mais c'est ces petites oscillations qui nous font dire que finalement, il y a de l'eau en dessous. Alors l'estimation, ce serait, on a une épaisseur de glace de 20 à 30 km d'épaisseur, d'accord, et en dessous, on aurait un océan sous cette glace, et qui est maintenu chaud tout simplement par l'effet de marée, c'est-à-dire que comme il est situé à côté d'une planète géante, la planète géante n'arrête pas de tordre Titan, Mimas dans tous les sens, et en tordant Mimas dans tous les sens, ça crée un échauffement à son cœur et ça permet de garder l'eau liquide. Donc de l'eau liquide, une température à peu près régulée, il suffirait qu'il y ait les briques de la vie qui soient posées là-dedans et ça pourrait démarrer. Donc on ne sait pas, peut-être qu'il y aura, peut-être qu'il y a des vies bactériennes qui sont dans l'océan de Mimas.
Alors du coup, ça bouscule un peu nos connaissances.
Oui, mais tout, comme je l'ai dit, hein, chaque fois qu'on fait une découverte, ça bouscule un petit peu les connaissances qu'on a. En science, ce qu'il faut dire, c'est que rien n'est jamais acquis. C'est-à-dire que tout peut évoluer en fonction de nos capacités de détection, de mesure, et puis surtout la remise en cause de nos savoirs. C'est-à-dire qu'un scientifique, même s'il est persuadé de sa théorie, si un élément extérieur arrive, il acceptera. il accepte la remise en cause de ses théories avec la vision de nouvelles perspectives. Donc, dans la recherche de compréhension de notre environnement, on veut toujours en savoir plus. On veut toujours essayer de comprendre plus. Tant pis si on met à terre les théories actuelles qui marchent. Dans tous les cas, elles ne seront jamais 100% fausses, mais elles seront simplement modifiées un petit peu. Et il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas encore, et chaque fois qu'on peut affiner un paramètre, et ben, ça modifie le résultat de la théorie, et ça modifie peut-être nos connaissances, quoi. Mais il y a des idées qui circulent, il y a des idées, vous allez sur Internet, des idées qui circulent dans tous les sens, qui ne prennent pas compte, ne tiennent pas beaucoup compte, on va dire, des théories qui sont acquises actuellement, qui prennent celles qui les intéressent, celles qui les arrangent pour trouver une solution. Par exemple, pour moi, la Terre, elle ne me semble pas plate. Hein. Je pense que Aristote, Thalès de Milet, Galilée, ils ont simplement étudié l'ombre de la Terre lors d'une éclipse. Ils ont vu que ce n'était pas un truc plat qui passait. Ils ont vu qu'on voyait une rotondité de la Terre. Donc, il n'y avait pas de technologie énorme. Il y avait simplement du bon sens qui dit ben, un objet qui est plat, il fait une ombre plate. Voilà. Donc, Ce développement scientifique, en fait, eh bien, c'est ce que nous faisons nous au quotidien, c'est-à-dire on développe la curiosité scientifique et même aller au-delà de la connaissance scientifique, le fait d'avoir cet esprit critique, ben, ça permet de garder cet esprit critique sur la totalité des événements de notre vie, c'est-à-dire de ne pas accepter forcément un élément qu'on nous donne. Garder le libre arbitre par rapport à nos connaissances, donc on a des connaissances, on a un socle de connaissances scientifiques ou autres, et garder notre esprit d'analyse personnelle.
Et dans l'actualité immédiate, j'ai vu qu'il y avait actuellement une comète à voir.
Oui, actuellement, il y a une superbe comète à voir. C'est la comète Ponsbrook. Elle est facile à voir actuellement parce qu'elle a des sursauts de luminosité. C'est une comète avec un système de volcanisme cryogénique, c'est-à-dire un volcanisme froid. Et de temps en temps, ben, elle monte un petit peu en luminosité. Et actuellement, elle est visible à l'œil nu avec une bonne paire de jumelles, vous pouvez la voir. Donc pour la voir, il suffit d'aller regarder un petit peu du côté de la constellation d'Andromède en direction du sud-ouest, dès que le soleil se couche. Et si vous voulez être sûr de la trouver, vous pouvez utiliser des applis comme SkyMap, Stellarium, comme ça vous pourrez pointer. Et après, vous mettez une paire de jumelles dessus, vous verrez une petite boule très lumineuse avec une queue qui passe derrière. Donc lors de notre prochaine émission, nous parlerons un petit peu de l'histoire de l'astronomie. On voit que l'histoire de l'astronomie, elle est tout le temps, dans toutes nos émissions, à un moment, on a un élément historique, ça veut dire que l'astronomie vient de loin. Et on développera aussi les instruments développés par les anciens pour modéliser, pour réussir à calculer, pour réussir à comprendre les mouvements de l'univers. Donc en partant de leur théorie mathématique et sans ordinateur, bah, ils ont réussi à créer des outils qui permettaient de prévoir les mouvements de les mouvements de la Terre, les mouvements du Soleil, les positionnements, etc. Donc on va développer un petit peu tous ces instruments. Et je vais vous souhaiter un bon ciel à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt. C'était Les Landes du Ciel, une émission proposée par l'Astroclub du Marsan. Nous vous donnerons rendez-vous le mois prochain. Retrouvez également cette émission dans les podcasts de Radio MDM.